rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte le moment qui est à l'origine de la chanson « Into My Arms » de Nick Cave and the Bad Seeds. Février 1996, Highgate, Londres. La nuit tombe tôt sur le nord de la capitale anglaise. Un ciel lourd, sans relief, hésite entre gris et violet. La brume prend lentement possession des rues. Au bout de North Road se trouve le centre de désintoxication résidentielle. Un bâtiment massif, imposant. Un ancien refuge victorien aux briques brun foncé, longé par un muret en pierre couvert de mousse. Une grille en fer forgé, légèrement rouillée, mène à l'imposante porte d'entrée via une allée de gravier, entourée de buissons mal taillés. Une lampe extérieure clignote par intermittence, donnant une atmosphère toute particulière à l'endroit. On est loin de l'effervescence de la ville. Ici, tout est paisible, calme. Nick Cave rentre de promenade. Il arrive tel qu'en lui-même. Col relevé, pas hésitant, silhouette longue mais affaissée. Il pousse la porte et un courant d'air fait vibrer les feuilles d'un panneau d'affichage. À l'intérieur, le hall s'étire en largeur, éclairé par des néons blancs qui bourdonnent sans interruption. Le sol est recouvert d'un lino beige usé par les passages répétés. Sur la droite, un tableau magnétique indique les noms des résidents. Ceux présents, ceux en réunion, ceux sortis marché. En face, un couloir mène aux chambres. Contre le mur du fond, légèrement de biais, un piano droit, couleur acajou, vernis craquelé. Quelques touches ont perdu leur ivoire, d'autres semblent avoir été recolorées au marqueur. Personne ne sait vraiment pourquoi il est là, ni qui l'a apporté. Mais il est devenu un élément du décor, presque un meuble sentimental. Nick Cave s'en approche lentement, sans se précipiter. Il pose une main sur le bois, comme pour vérifier qu'il est réel. Parfois il s'assoit, parfois non. Souvent il reste debout, regarde le clavier quelques secondes, puis repart. Dans cet établissement où l'on tente lentement de remettre les âmes en état de marche, Nick Cave n'est pas un inconnu. Il est arrivé avec une réputation dense, presque encombrante. Depuis plus de 10 ans, il enchaîne albums marquants et tournées intenses. Avec son groupe, The Birthday Party, il s'était imposé comme une force brute du post-punk déchaîné, incandescent. Avec The Bad Seeds, il est devenu un conteur sombre, magnétique. Ses succès ne sont pas encore des tubes planétaires, mais certains sont cultes, comme Red Right Hand, qui deviendra la bande-son de la série Peaky Blinders. Son environnement artistique est intense, presque écrasant. Depuis Berlin et les premières années des Bad Seeds, Cave évolue dans une scène où se croisent musiciens, écrivains, performeurs et marginaux de génie. Les studios, les tournées, les nuits trop longues forme un quotidien où la créativité s'alimente autant de rigueur que d'excès. Pendant un temps, tout avance intensément, dangereusement. Mais derrière cette énergie permanente, la fissure se creuse. Les dépendances anciennes reviennent se loger au centre de sa vie. Son mariage avec Viviane Carnero s'achève. Et quelques mois plus tard, sa relation brève mais marquante avec P.G. Harvey se brise à son tour. Cave se retrouve dispersé, instable, sans ancrage. Le sentiment de vivre en décalage avec lui-même devient constant. Les excès prennent plus de place que les chansons. Et la spirale finit par le mener là où il doit tout arrêter, tout mettre à plat. Dans un centre de désintoxication, loin du bruit et de ses propres ruines. Les premières semaines sont silencieuses. Cave tente de suivre le protocole. Thérapie de groupe, entretien individuel, repas sans alcool. Le matin, il reste longtemps dans sa chambre. En fin de journée, il quitte parfois le bâtiment pour s'aventurer sur les chemins qui bordent le centre. Il avance entre les haies détrempées, respire l'odeur de terre froide. Le vent fait ployer les arbres. La boue accroche ses chaussures et seul le bruit lointain d'une route rappelle la ville. Dans cette campagne silencieuse, il marche longtemps, comme pour laisser derrière lui le poids des murs et la rumeur étouffée des autres résidents. Au début, le piano n'est qu'un objet. Nikkev s'en approche par curiosité. Une fois, il soulève le couvercle. Une autre fois, il effleure deux touches. Puis plusieurs jours passent sans qu'il y revienne. La musique ne jaillit pas, elle se cache. L'esprit est trop lourd, trop lent. Il tente parfois de noter quelques mots. Ils finissent à la poubelle. Un jour, il s'assied, il joue un accord, un seul. Puis, il lâche prise et s'éloigne aussitôt. Un autre jour, il joue trois notes, s'arrête brutalement, comme surpris d'entendre sa propre main. Kev regarde le clavier comme s'il tentait de reconnaître un visage familier. Il recommence. Pas tous les jours, pas longtemps. Deux minutes parfois. Et puis rien pendant une semaine. La création revient comme une lumière capricieuse qui s'allume sans prévenir, puis s'éteint dans la même seconde. Dehors, l'hiver continue. Dans l'église de Highgate, il s'assoit en silence et observe la lumière changer dans les vitraux. Le bleu froid de l'après-midi laisse place à un gris terne, puis à l'obscurité. Aucune musique ne naît là non plus, seulement une sorte de respiration lente. Puis au fil des semaines, certains soirs, Nick revient au piano. Un accord, un enchaînement un peu plus stable, un vers griffonné sur un carnet, un autre biffé rageusement, un fragment qu'il pense tenir, puis qu'il abandonne le lendemain. La reconstruction n'est ni spectaculaire ni lumineuse. Elle ressemble davantage à une pierre qu'on pousse 100 fois avant qu'elle ne se déplace d'un millimètre. Peu à peu, la musique revient sans prévenir. Non pas comme une révélation, mais comme une présence ténue. Une mélodie fragile s'installe. Kev la rejoue encore, encore. Parfois, sans y croire. Elle semble tenir cette fois. Une phrase surgit à voix basse. Il l'essaie, l'ajuste. La répète sans la comprendre entièrement. Les infirmiers le laissent faire. Ils ont compris que c'est là, au clavier, qu'il respire le mieux. Et au cœur du centre de désintoxication, au milieu des échecs, des tentatives abandonnées, des jours gris et des nuits trop longues, quelque chose, enfin, recommence à vivre. Lentement, prudemment, comme une braise qu'on croyait éteinte et qui, contre toute attente, se remet à rougeoyer. Le passage de Nick Cave en cure de désintoxication au cœur de l'hiver 96 est le moment à l'origine de Into My Arms, qui paraît en mars 1997 sur The Boatman's Call, le 10e album studio de Nick Cave and the Bad Seeds. Into My Arms est l'une des chansons les plus dépouillées et les plus sincères de Nick Cave. Loin de la fureur et des récits bibliques de ses débuts, c'est un morceau qui repose sur une tension intime. Un homme qui ne croit plus en grand-chose s'adresse à une femme qui, elle, garde encore foi en quelque chose, en Dieu, en l'amour, en la lumière. Cave transforme ce doute en une forme d'aveu. Même s'il ne croit pas en un dieu interventionniste, il espère malgré tout qu'une force humaine ou divine puisse prendre soin d'elle. C'est une prière laïque, un chant d'amour qui cherche la paix plus que la passion.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do.
Je ne crois pas en un Dieu interventionniste, mais je sais, chérie, que toi tu y crois. Le texte progresse comme une confession. Le premier vers affirme son scepticisme. Le deuxième reconnaît la foi de l'autre. C'est dans ces tensions que la chanson trouve son cœur. Kev construit une série de conditions hypothétiques. Si Dieu existait, si les anges existaient, il les supplierait non pas d'agir sur lui, mais de ne pas transformer la femme aimée, la protéger sans la modifier, la guider sans la contraindre. Tout est fragile, minimaliste, presque murmurant.
He felt he had to direct you and direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Et s'il ressentait le besoin de te guider, alors qu'il te guide dans mes bras, ô Seigneur. La demande, guidée vers ses bras, n'est pas une conquête sentimentale. C'est un souhait timide, presque résigné. Ce n'est pas un amour flamboyant. C'est une espérance discrète, née dans un moment de reconstruction. Musicalement, la chanson repose sur trois éléments. Un piano minimal, joué dans un registre médium, sans fioritures, presque comme une berceuse. Une voix nue, sans vibrato, enregistrée très près du micro, donnant la sensation d'être dans la même pièce que lui. Un tempo lent et immobile, qui laisse les mots respirer. Cette sobriété tranche avec tout ce que Kev a produit avant. Pas de guitare abrasive, pas de tension dramatique, pas de montée. Le morceau reste sur un fil, comme s'il craignait de briser sa propre fragilité. Le jeu harmonique, limité à quelques accords répétés, renforce cette idée. C'est une chanson qui avance en marchant lentement, sans détour. « Into My Arms » ouvre « The Boatman's Call », sorti en 1997. L'album marque une rupture esthétique majeure pour Nick Cave and the Bad Seeds. Introspectif, piano-voix, centré sur les émotions plutôt que sur les récits. À sa sortie, la chanson est saluée immédiatement. Elle séduit par sa sincérité et devient rapidement un de ses morceaux signature, joué systématiquement en concert. Quelques mois plus tard, Kev la chante aux funérailles de Michael Hutchence, chanteur-compositeur du groupe australien In Excess et ami proche. Il demande que les caméras soient coupées, seul le son sera diffusé. Ce moment contribuera à l'aura quasi sacrée du morceau. Into My Arms reste aujourd'hui l'une des chansons les plus aimées de Nick Cave, au point d'être devenue une porte d'entrée vers son œuvre. Elle apparaît dans plusieurs films, séries, documentaires, souvent associée à la mélancolie et au recueillement. Elle symbolise le tournant artistique du chanteur, celui où il abandonne la théâtralité pour explorer la vulnérabilité. Cette esthétique influencera plusieurs albums suivants. Beaucoup de fans considère qu'elle marque le moment où Kev cesse d'être une figure du chaos pour devenir un écrivain sonore de l'intime. Avec Into My Arms, Nick Cave écrit peut-être la chanson la plus simple de sa carrière et paradoxalement, l'une des plus puissantes. Elle porte la trace de la période qu'il traverse. La cure, la rupture, la reconstruction lente. C'est un morceau qui ne cherche pas à convaincre ou impressionner. Il se contente d'avancer à pas très mesurés, comme un homme qui réapprend à respirer. Interventionist God, but I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not
to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
Classique 21, le média rock de la RTBF.